Est-ce que tout le monde m'entend? Peut-être qu'il faut que je rapproche le micro. Est-ce que ça va comme ça? Samuel 19, 8 à 16. La guerre reprend. David part combattre les Philistins. Leur défaite est si grande qu'il fuit devant David. Un jour, un esprit mauvais envoyé par le Seigneur entre dans Saül. Il est assis dans sa maison et tient sa lance à la main. David est en train de jouer de la cithare. Saül cherche à clouer David au mur avec sa lance. Mais David évite le coup, et la lance se plante dans le mur. David fuit et il échappe à la mort cette nuit-là. Saül envoie des gens à la maison de David pour le surveiller et pour le tuer le matin. Mais Michal, la femme de David, le prévient. « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu seras mort. » Alors elle le fait descendre par la fenêtre et David s'enfuit pour sauver sa vie. Michal prend une statue en bois et elle la met dans le lit de David. Elle prend une mousquetaire faite de poils de chèvre. Elle la met à la tête du lit et elle couvre la statue avec une couverture. Quand les gens de Saül viennent pour arrêter David, Michal leur dit « Il est malade ». Saül envoie ses gens une deuxième fois. Il leur dit « Retournez voir David, ramenez-le chez moi dans son lit pour que je le tue. » Les gens du roi reviennent chez David. Ils trouvent la statue dans son lit et la mousquetaire étendue à la tête du lit. Jean 20, 1 à 10. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui, il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. Deux textes, dans chacun d'eux une femme, un corps introuvable, du tissu, comme seule présence. Quand Eliane Ventre, que vous connaissez tous, m'a donné les thèmes de notre année, le messianisme, j'y ai tout de suite associé le mot Messie. Puis tout naturellement, ma sensibilité chrétienne m'a conduite au Christ. Cette fois, c'est peut-être là ma sensibilité protestante qui, elle, m'a conduite directement au texte biblique. Le mot « Christos » en grec traduit le terme hébreu « Machia », qui donne en français « Messie ». L'Ancien Testament mentionne ce mot « Messie » 39 fois. Et le livre qui en contient le plus d'occurrences, 18 sur les 39, est celui ou ceux, parce qu'il y en a deux, du prophète Samuel. Pour information, c'est le psautier qui vient en deuxième position avec 10 occurrences. En partant du thème du messianisme, je décide donc de m'intéresser au Messie en me référant au livre de l'Ancien Testament qui le cite le plus, Samuel. Par la suite, ce mot Messie nous conduira tel un fil conducteur, nous le verrons, dans les évangiles. Mon exposé s'inspire largement de l'étude approfondie à ce sujet de Philippe Lefebvre, dominicain français, professeur à la faculté catholique de Fribourg. Ses recherches sont transcrites dans l'ouvrage de 2004, Livre de Samuel et Récits de résurrection, dans la collection Lectio Divina au CERF. Bonsoir à toutes et à tous. Arrivée donc depuis peu à Annecy, je me réjouis de partager cette soirée avec vous dans ce groupe de l'amitié judéo-chrétienne. Et je vous remercie de m'y avoir convié. Vous avez donc devant vous normalement le plan de l'exposé. Est-ce que tout le monde a pu avoir un plan? Est-ce qu'il en reste ou il en reste au fond? D'accord. Donc si éventuellement il y a des retardataires, ça serait gentil de leur faire passer. Alors, comme j'avais dit la fois passée, et comme vous le voyez dans ce plan, l'exposé va être très biblique. Nous avons travaillé dans le livre de Samuel. Donc, si certains d'entre vous ont leur Bible, c'est bien d'ouvrir tout de suite au livre de Samuel, si vous voulez essayer de parcourir un petit peu ces livres directement. Sur la feuille que vous avez donc sur la gauche le plan de l'exposé, et sur la droite, toutes les occurrences, donc les 18 occurrences que l'on va trouver du mot Messie dans les deux livres de Samuel. Et ces occurrences, je les citerai tout au long de l'exposé, j'y ferai référence. Occurrence de Messie en Samuel. Alors c'est un peu, vous savez, comme dans le jeu des poupées russes. Vous connaissez tous les poupées russes, une grande poupée, on ouvre une poupée un peu plus petite, on ouvre, tout s'emboîte et on trouve différentes poupées. On est parti du messianisme, nous sommes arrivés au Messie, je vous ai conduit à Samuel, et nous arrivons maintenant à Saül. À 10 reprises sur les 18, le terme renvoie explicitement à la personne de Saül, le terme du Messie. Une fois, il va désigner son bouclier. Quant aux toutes deux premières occurrences qui se trouvent dans les annonces d'un Messie à venir, elles englobent Saül dans la figure messianique qui est évoquée. 13 occurrences donc sur les 18 dans les livres de Samuel vont concerner Saül. Saül est celui qui est le plus souvent nommé explicitement Messie en Samuel, et même dans toute la Bible. Les 10 heures de Messie en Samuel, qui donc profère ce mot Messie? Le mot est porteur d'une charge de sens. Anne est le premier personnage à proférer ce mot. C'est même le premier être humain de la Bible entière à en faire usage et à le lier au terme roi. Anne, vous connaissez peut-être ce personnage biblique sûrement, a connu une intense relation à Dieu. Elle vit une expérience en mettant au monde Samuel, puis 5 autres enfants. Et cette expérience va complètement dépasser sa situation personnelle. Elle voit dans sa fécondité de femme stérile au départ le signe d'une vie qui concernera bientôt tout le peuple. Je cite la première occurrence, 1 Samuel 2:10. Yahvé donne la force à son roi, il relève la corne de son Messie. Bien avant que l'on ne parle de roi Messie, cette réalité est donc mystérieusement prophétisée à la fin du cantique d'Anne qui tient du psaume. Il semblerait que Anne, qui s'est adressée à Dieu et qui a été par lui plus qu'exaucée, soit habilité à écrémer le nom Messie, chargé de promesses et d'inconnus. Le suspense inauguré par Anne est bientôt repris par l'anonyme « homme de Dieu » qui surgit auprès d'Élie. Son propos est rude, il s'agit de la chute de la maison d'Élie. Mais il ouvre aussi à un temps nouveau Je cite, « Dieu se suscitera un prêtre fidèle qui marchera devant le Messie tous les jours. » Même si ce texte est certes tardif, il parle de sacerdoce et confirme l'ambiance d'attente et d'annonce qu'Anne avait déjà esquissée. Seul un homme mandaté par Dieu pouvait proclamer de tels événements. Le terme Messie qu'il emploie, sans d'ailleurs le préciser plus, en revêt d'autant plus de poids et de mystère. Toujours dans la même portion de texte, nous sommes dans 1 Samuel 2, c'est donc une femme, Anne, puis un homme, qui désigne loin de Yahvé, qui désigne le Messie. Ce dernier donne du neuf. Le manque de vie, la stérilité pour Anne, le manque d'hommes de confiance pour régir le peuple et le maintenir en contact avec Yahvé, semble barrer tout chemin. Or, on apprend là qu'un Messie sera fortifié par Yahvé et que devant lui un prêtre saint marchera. Au commencement donc, une femme, un homme, tous deux en lien étroit avec Dieu, proclament que la vie de Dieu suit inéluctablement son cours. On est placé là dans l'atmosphère du commencement, en présence d'une Ève, Anne, qui assume son rôle de mère des vivants, et d'un Adam, l'homme de Dieu, qui reçoit et répercute fidèlement ce que Dieu a ordonné. Alors c'est vrai, on s'interroge souvent pour savoir si dans l'Ancien Testament le mot Messie comporte une visée eschatologique et si oui, de quelle teneur. La question est légitime, mais je crois qu'il est important de constater que dès les débuts de son emploi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ses emplois le baignent plutôt dans la lumière du commencement. Le Messie est certes annoncé comme un maître qui vient, un maître à venir, mais il est au début du livre par une femme et par un homme dont l'expérience renoue avec celle des origines. Samuel, devenu adulte, est reconnu comme prophète de Yahvé. C'est lui qui assume ensuite le mot Messie. Il le prononce les deux premières fois dans un discours grave qu'il va adresser au peuple. Les expressions sont solennelles, je cite, « Témoignez contre moi devant Yahvé et devant son Messie. Yahvé est témoin contre vous et son Messie est témoin en ce jour. » Nous sommes là aux troisième et quatrième occurrences, 1 Samuel 12, 3 et 5. Samuel met en relief deux binômes impressionnants, Yahvé et son Messie, et Yahvé est lui-même. Il se place, comme il place le Messie, dans la sphère du divin, dans l'action commune du Seigneur et d'un homme tout spécialement choisi. Samuel se trompe une fois. Vous vous souvenez peut-être de ce texte, envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi, il va être impressionné par le premier fils de Jessé, Eliab. Sûrement, le Messie de Yahvé est devant lui, dit-il. Mais Samuel, le voyant, a mal vu, projetant peut-être sur Eliab les caractéristiques de Saül, sa prestance, sa haute taille. Il croit discerner l'homme choisi. Mais Dieu intervient immédiatement, ce qui souligne que même un homme mandaté par Dieu ne peut attribuer à tort le titre de Messie. Et vous le savez, dans cette histoire, ça sera finalement David qui sera oint, le plus petit de la famille, le berger, sans qu'il soit d'ailleurs avant longtemps précisément appelé Messie. David devient donc désormais le détenteur du terme Messie. Il l'emploie 11 fois sur les 18 de Samuel, et il va majoritairement désigner Saül, nous l'avons dit, par ce terme. Il le fait en trois textes de manière répétée à chaque fois. Dans ces trois passages, il est question de la mort de Saül, menaçante d'abord et finalement effective. Quand David appelle Saül par le titre de Messie, c'est avec beaucoup d'insistance. Souvenez-vous de ce texte assez connu. En 1 Samuel 24, Saül qui poursuit David s'arrête dans la grotte d'Engadi, sans savoir que David s'y trouve aussi. Les soldats du fugitif voit alors dans cette rencontre un signe providentiel. Dieu vraiment a livré Saül aux mains de David. Allons-y, tuons-le. Celui-ci se contente de couper un pan du manteau du roi et se écrit auprès des siens, je cite, « Yahvé me garde de faire une telle chose à mon Seigneur, au Messie de Yahvé, que de porter la main sur lui, car il est le Messie de Yahvé. » 1 Samuel 24, 7. Nous sommes au 6e, à la 6e et à la 7e occurrence. Et la phrase va se répéter en 1 Samuel 24, 11, qui sera la 8e occurrence. Cette scène célèbre laisse, je crois, une image forte dans l'esprit. Celui que David, pour la première fois, appelle à deux reprises le Messie de Yahvé, est un homme enfoui dans la profondeur d'une caverne, que la mort menace de près, sans que pourtant elle ne l'atteigne. Une scène du même genre a lieu peu après, en 1 Samuel 26. David mentionnera cette fois 4 fois le nom de Messie. Saül est couché dans son camp de nuit et semble à nouveau livré à David par Dieu, qui a fait tomber une torpeur sur le roi et ses soldats. David s'approche avec un de ses parents, Abishai, et refuse la violence que ce dernier voudrait lui infliger. Qui pourrait porter la main sur le Messie de Yahvé et rester impuni? Que Yahvé me garde de porter la main sur le Messie de Yahvé. Un peu plus tard, s'étant éloigné du camp, David invective les proches du roi. « Par la vie de Yahvé, vous êtes digne de mort, vous qui n'avez pas veillé sur votre Seigneur, sur le Messie de Yahvé. » Comme auparavant, le Messie est à nouveau présenté comme celui qui pouvait mourir. Pourtant, la fermeté de David, son sens du Dieu qui seul est maître de la vie, le délivre. Les éléments de ces scènes se retrouvent quand on vient annoncer à David la mort, cette fois réelle, de Saül. Il aurait été transpercé à sa demande par un jeune Amalécite, venu ensuite emporter la nouvelle au roi. Je cite « Comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour détruire le Messie de Yahvé ?» s'exclame alors David, et il fait exécuter le jeune homme en répétant « Ta bouche a témoigné contre toi quand tu as dit « C'est moi qui ai donné la mort au Messie de Yahvé. » Suit alors le superbe passage sur la mort de Saül et de Jonathan. Et le mot Messie y est employé exceptionnellement pour qualifier le bouclier, cette fois nous l'avons dit au début, le bouclier du roi défunt, le bouclier de Saül. Je cite, « Le bouclier de Saül n'était pas oint d'huile, mais du sang des transpercés et de la graisse des héros. » 2 Samuel 1, 21 et 22. Nous sommes passés au deuxième livre de Samuel, et il s'agit de la 15e occurrence. On peut voir dans cet usage du bouclier comme du Messie peut-être une mise à distance. Ce n'est plus la seule personne de Saül, du Saül historique qui est ici chantée, mais c'est la figure messianique qu'il incarnait. En 2 Samuel 19, Abishai, qui, souvenez-vous, dès 1 Samuel 26, prétendait transpercer Saül d'un coup de lance, propose cette fois à David de mettre à mort Shimei, qui naguère avait maudit le roi. C'est la première fois qu'un homme non mandaté pour le faire ose prononcer le titre de Messie. Je cite, « Est-ce que Shimei ne sera pas mis à mort pour avoir maudit le Messie de Yahvé ?» David lui répond aussitôt, « Que me voulez-vous? Que vous deveniez aujourd'hui mes adversaires? Ne sais-je donc pas qu'aujourd'hui je suis roi sur Israël ?» David sait maintenant qu'il est roi, maintenant que tous ses ennemis ont relâché leur étau. Le Messie sait qu'il est Messie, nul autre ne peut s'approprier le terme, le prononcer comme il lui plaît et l'invoquer pour pousser à tuer. Depuis que David emploie le mot Messie, c'est toujours dans un contexte de mort menaçante, comme nous l'avons vu. Nous savions qu'il défendait auparavant de mettre à mort Saül. Nous apprenons maintenant qu'il y a des circonstances où lui-même, en tant que roi Messie, ne saurait mettre à mort même un adversaire. Il faut toutefois attendre la toute fin de Samuel pour que le roi applique enfin ce terme à lui-même. Il est étonnant, alors que les prophètes et les psaumes verront en David et en son fils les figures essentielles du Messie, que le terme arrive si tardivement à désigner David lui-même. Cela confirme la prudence que nous avons notée jusqu'ici dans l'usage du mot Messie. Saül ne s'est jamais intitulé Messie. David et ceux qui l'ont précédé n'ont dit le mot que dans des circonstances précises et quand ils y étaient invités par Dieu. David, comme Anne, intègre ce mot dans un cantique. Il faut au moins cette forme et cette teneur inspirée pour que le mot redoutable puisse être dit. Il accorde à son roi de grandes victoires et témoigne fidélité à son nom, à David et à sa descendance pour toujours. 2 Samuel 22, verset 51. David se désigne comme un personnage dont il parle. Lui qui n'a pas hésité dans les autres versets à parler de lui à la première personne. Soudain, Dieu est un « il » alors que le roi le désignait par « tu ». Et David est aussi un « il », un homme dont il parle à distance. David parle donc de lui comme de cet homme historique qui échappa à Saül et à tous ses assaillants, mais aussi comme une figure du Messie. David mentionne David et sa postérité selon une formule qu'un de ses successeurs pourrait avoir, selon la formule que n'importe quel croyant répétera en psalmodiant ce texte. On arrive là à une sorte de jonction entre le David de l'histoire et le David de la foi. La dernière occurrence de Messie en Samuel se trouve à nouveau dans une pièce poétique qui suit immédiatement le psaume de 2 Samuel 22. David s'y intitule explicitement Messie. Il ne le fait que parce que Dieu le dit, en lui et par lui. Je cite, « Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, Messie du Dieu de Jacob, favori des champs d'Israël. L'Esprit de Yahvé a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. » 2 Samuel 23, 1 et 2. Nous sommes à la dernière occurrence, la 18e. Est-ce que vous avez pu suivre au niveau du plan? Donc là, nous avons fait toute cette partie, les 10 heures de Messie en Samuel. Nous avons vu toutes les occurrences sur la page de droite. Et nous allons enchaîner avec la teneur du mot Messie. On va se concentrer sur 2 Samuel 23. Messie et récapitulation. Cet oracle de David que nous venons d'entendre esquisse un discret retour sur le passé du roi, mais aussi sur le passé du peuple, sur le passé d'Israël. Pour la première fois, David se dit Messie du Dieu de Jacob. David se désigne par ses racines israélites, Jessé au plus proche, Jacob au plus loin. Une comparaison cosmique, on pourrait dire, vient encore ouvrir l'horizon. Celui qui gouverne dans la crainte de Dieu est comme la lumière du matin, nous dit-on. Le Messie est un lieu de jonction. Issu des générations humaines, il ressemble à la première des créatures, la lumière. Il est en lien avec Dieu par une alliance perpétuelle, comme le fut pour la première fois celle de Noé et du Seigneur. Se manifeste en sa personne une sorte de récapitulation du Créé, ainsi que la présence même de Dieu en lui. Comme la suite le souligne, c'est l'Esprit du Seigneur qui met sur sa langue les paroles divines. Ces derniers propos situent d'une manière qui n'avait jamais été encore aussi précise la cohésion du Messie David. Il participe à une histoire familiale, Jessé, nationale, Jacob, humaine, la création, l'alliance. Il est aussi celui qui reçoit dans sa chair, ce que suggère le terme concret « ma langue ». Une parole de Dieu, il reçoit une parole de Dieu qu'il répercute en un oracle. Les cantiques de David, en 2 Samuel 22 et 23, répondent au cantique d'Anne que nous avions trouvé joint au propos de l'homme de Dieu, souvenez-vous tout au début. Ces deux personnages avaient situé dans l'atmosphère des commencements la réalité messianique qu'ils annonçaient. David confirme et développe cette intuition. Messie et participation. Les exploits de la troupe de David qui sont ensuite mentionnés reçoivent une lumière qui n'aurait pas été aussi claire si leur liste avait été donnée plus tôt. Dans ces brèves évocations où l'on résume un peu tous les combats qu'il y a eu, on revient sur le passé de David et de ses hommes. Or, après les paroles inspirées de David, ce passé aux dimensions limitées prend son sens. C'est déjà David le Messie qui était là dans l'humble personne du chef de bande. C'était bien le fils de Jessé, occupé à batailler à Bethléem, qui serait un jour révélé comme le lieu même de l'esprit de Yahvé, le partenaire d'une alliance éternelle. Le Messie du Dieu de Jacob éclaire sa personne comme si elle ne pouvait que maintenant être illuminée, après des années d'obscurité, passé dans le petit royaume où il s'est maintenu. Il éclaire aussi tous ceux qui ont eu, depuis le début, part à ses prouesses locales. Ou plutôt, il met en lumière, comme Messie, la source du procès de tout acte qui a été fait au nom du Dieu d'Israël. On atteint là, dans cette dernière occurrence, une plénitude du sens de Messie. David ne l'emploie finalement en l'appliquant à lui-même, que parce que ce terme rayonne sur d'autres que lui et les englobe. David et sa descendance, David et ses serviteurs. L'emploi du mot Messie en Samuel fait donc l'objet toujours d'une mise en scène très précise, toujours prononcée dans des propos rapportés, au style direct, mais pas par n'importe qui. Tout cela suggère que le terme est très important, lourd d'un sens lié à la vie. Le Messie peut-il mourir ou peut-il lui-même tuer? Il est orienté vers le commencement, ce qui lui donne une portée qui dépasse le seul cadre du politique et du religieux. Il dépasse la personne du Messie et sa portée atteint ceux qui l'entourent et ceux qui sont issus de lui. Je voudrais maintenant établir un lien avec tout ce que nous venons de dire, et le christianisme. En me tournant sur la personne du Christ Jésus dans les évangiles, et en essayant de voir justement quel lien peut-il y avoir entre ce Messie, ces Messies que nous venons de voir en Samuel, et ceux qui seront cités dans les évangiles. Je vous rappelle que Christos en grec traduit le terme Machia de l'hébreu, Messie. Vous allez voir que bien des éléments que nous avons déjà vus en Samuel sont repris et adaptés dans les évangiles. Il y a aussi beaucoup de changements. Ce terme apparaît très vite dans les évangiles, en général attribué au narrateur. Et il n'y a plus cette distance qui faisait que le titre était prononcé en Samuel dans des propos au style direct. Nous ne sommes donc plus dans les évangiles dans une espèce de réalité mystérieuse, comme c'était le cas en Samuel, où tout était à découvrir. Si le mot Messie est donné par les narrateurs comme, on va dire, intégré au langage commun, cela ne signifie pas pour autant que ce terme désigne une réalité évidente pour tous. C'est même plutôt le contraire. Tout le monde parle du Messie, bien peu savent le reconnaître quand il est là. Le passage à l'explicite, à la parole publique, ne rend pas le Messie plus reconnaissable. Le mot Messie ne semble pas faire l'objet de la même prudence que Samuel manifestait. En Matthieu 2, verset 4, la première personne qui prononce le mot Messie est Hérode. Il s'informa auprès d'eux où le Christ était né. En Marc 1, 34, on dit que les esprits impurs savaient qu'il était le Christ. Dans les synoptiques, le mot est plusieurs fois le fait de Pilate. Que ferais-je donc de Jésus appelé Christ ? Matthieu 27, 22, par exemple. Des soldats qui bafouent Jésus lors de sa passion. Fais-nous le prophète, Christ. De tous ceux qui viennent le rallier quand il est en croix. Qu'il se sauve lui-même si vraiment celui-ci est le Christ. Luc 23, 2. Alors le mot est-il dévalué ? L'enseignement de Samuel est-il mis à mal par ses emplois qui sont le fait finalement d'hommes hostiles ? Non. Non, les évangiles développent un aspect important. Bien des gens ne soupçonnent pas à quel point ce qu'ils disent du Messie est vrai. Même l'ironie et la haine ne font que donner une tournure négative à une vérité qui se dit néanmoins. Tout ce qui est dit du Messie, en quelque registre que ce soit, travaille finalement à le révéler. Matthieu 1, verset 1, commence par ces mots. Livre de la Genèse de Jésus-Christ. En voyant bientôt émerger Jésus de la lignée de David, nous sommes renvoyés à Samuel, mais aussi à la Genèse, le livre des naissances dont Matthieu s'inspire. Les histoires de Messie sont croisées avec celles des premiers enfantements, notamment ceux des patriarches et de leurs enfants. Matthieu reprend cette idée importante de Samuel, selon laquelle la réalité du Messie baigne dans les récits de commencement. Le Messie descend des races humaines et se réapproprie les origines. La généalogie chez Luc explorera même la chaîne des générations jusqu'à remonter à Adam. La question n'est donc pas d'abord vers quoi tend le Messie, ou bien vient-il annoncer une fin des choses et laquelle, que nous réserve-t-il ? Mais la question est bien plutôt d'où vient sa vie ? Quelle origine ? Quelle source de vie met-il en lumière ? Le Messie conduit à méditer sur le commencement. Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Le mot « commencement » est le mot même qui inaugure Genèse. On a vu le mot « Christ » qui est essentiellement contenu en Samuel. Il y a apparemment un même effet de croisement qu'en Matthieu entre les récits de commencement et les histoires de Messie. Chez Luc, le mot Messie est d'abord le fait de l'ange qui l'annonce au berger. Luc 2, 11. Cela se passe dans l'ambiance des deux premiers chapitres de cet évangile rempli d'allusions à Genèse. Le fait que Siméon apparaisse ensuite établit un nouveau contact. Siméon, vous savez, ce vieillard, à qui il a été dit par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et cet homme Siméon, ce vieillard, accueille l'enfant Jésus en reprenant les mots mêmes d'Abraham. Il atteste que tout un passé, issu de Genèse, témoigne par lui que le Christ accomplit une réalité dont on parlait dès les commencements. Jean inaugure son évangile par la formule de Genèse. À la fin du prologue, il mentionne le mot Christ, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Alors nous le savons, ou peut-être nous ne l'avons pas remarqué, mais il se trouve que le Christ ne dit pas vraiment qu'il est le Christ. Le fait qu'il impose le silence sur cette question à ses disciples est intriguant. Faut-il penser que cela n'était pas clair pour lui ? Que l'affirmation de la messianité de Jésus est peut-être une position trop engagée de notre part. Jésus, je crois, se comporte comme un Messie, tel que Samuel nous a aidés à le comprendre. Saül ne dit jamais qu'il est Messie. David ne le dit qu'à l'extrême fin de son histoire. Le mot n'est proféré que par des personnes mandatées pour le faire, qui le disent parcimonieusement. Tout indique en Samuel que le Messie est une réalité centrale dont on ne parle pas de manière publicitaire. Les scènes des évangiles sur la reconnaissance de Jésus comme Messie sont bien dans la mouvance de Samuel. Ce n'est pas le Messie qui dit qu'il est Messie, mais il fournit l'occasion à ses disciples de le proclamer comme tel. De façon générale, vous le savez dans les évangiles, la question revient souvent : qui est Jésus ? Est-il le Christ ? N'est-ce pas plutôt Jean-Baptiste ? Diverses scènes sont pleines d'échos de Samuel. Le baptême du Christ sur qui descend l'Esprit matérialisé par une colombe peut rappeler les scènes d'onction de Saül et de David, sur qui l'Esprit de Yahvé fond comme un oiseau. Que le Christ soit le Christ fait souvent, vous le savez bien, l'objet de bien des questions. C'est une des manières de manifester l'incompréhension dont il est l'objet. Dès que Jésus est reconnu comme Messie par Pierre, il donne à ce mot un sens que les disciples n'entendent pas. Je cite, « Jésus se mit à montrer à ses disciples qu'il devait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, et être tué, et le troisième jour se relever. » Matthieu 16, 21. Pierre propose alors à Jésus un autre itinéraire que celui qu'il annonce. La phrase affirmative de Pierre, « tuer le Messie », est reprise sur le mode interrogatif par le grand prêtre lors du procès. « Tuer le Messie ?» Les plus habilités à parler du Messie ne sont pas des connaisseurs parfaits de la réalité dont ils osent parler. Pierre, vous le savez, bifurque après avoir suivi la voie qui l'a conduit à reconnaître Jésus comme Christ. Le grand prêtre, lui, interroge solennellement Jésus sans savoir finalement qui il est. Les scènes de crucifixion manifestent particulièrement l'aveuglement devant le Messie. Le mot y est plusieurs fois employé de manière dérisoire. Les chefs du peuple appellent Jésus à se sauver lui-même si vraiment il est le Christ. Un des malfaiteurs crucifiés réclame le salut de la part de Jésus pour lui et son collègue. Car n'est-ce pas toi qui es le Christ ? Quant aux soldats, ils apostrophent Jésus en lui montrant l'inanité pour son propre salut. Le verbe clé « sauver » qui a tout de suite servi à expliciter ce qu'est un Messie est ici utilisé pour manifester que les événements paraissent donner tort à celui que l'on appelle le Messie. Messie en Luc 24. Les deux fois en Luc où Jésus emploie le mot Messie en l'appliquant à sa personne, se trouve dans le dernier chapitre, après qu'il se soit relevé des morts. Aux pèlerins d'Emmaüs, Jésus dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entre dans la gloire ?» La question est enchâssée entre deux versets qui mentionnent les Écritures. Les disciples ont le cœur lent pour croire en tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis, ayant commencé à partir de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La résurrection n'est donc pas tout de suite orientée vers un avenir nouveau, mais vers un passé, encore une fois un passé, les Écritures, qui est à la fois parole, ce qu'ont dit les prophètes, et écrit, les Écritures. Plusieurs expressions dans ce bref passage viennent d'être employées dans le dialogue entre Jésus et les deux marcheurs. Ceux-ci se sont étonnés que leur nouveau compagnon ignore ce qui concerne Jésus le Nazarénien. Il le présente comme un prophète. Expliquant ce qui le concerne au moyen des prophètes, Jésus fait donc le lien entre l'Écriture, lui-même, et ce que les disciples ont compris sans vraiment le comprendre. Il redonne aussi à l'Écriture son statut de parole. Il l'explique, il parle. Les cœurs sans intelligence et lents se relèvent bientôt brûlants. L'Écriture dite et donnée à comprendre par un homme de chair devient une parole vivante qui va toucher d'autres chairs. Les pèlerins ont assisté à des événements qu'ils ne comprennent pas. Ils ont lu l'Écriture sans rien en retirer qui éclairerait les temps présents. Ils ont une chair encore opaque. Souvenez-vous du texte, leurs yeux sont bloqués, leur visage sombre. La chair de Jésus, ses gestes, ses paroles, les Écritures, produisent des ouvertures chez les disciples. Leurs yeux vont s'ouvrir, les Écritures s'ouvrent et bientôt, en compagnie des 11, leur intelligence s'ouvre. Après la scène de la résurrection qui laisse les femmes puis Pierre devant un tombeau béant, c'est bien à une ouverture que chacun est convié. Au groupe des disciples qu'il visite ensuite, Jésus rappelle ses propres paroles, annonçant qu'il fallait que fût accompli tout ce qui se trouve écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes à mon sujet. Il a donc actualisé en ses propres paroles ce qui était écrit, et l'accomplissement de ses paroles, c'est sa chair. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. Luc 24, 39. Nous voici arrivés à la fin de notre parcours sur le Messie. Et je crois qu'il est clair que la question n'est pas d'abord vers quoi tend le Messie. Où vient-il annoncer la fin des choses? Et si oui, quand, laquelle, et pourquoi, et comment? Mais plutôt d'où vient sa vie? Quelle origine? Quelle source de vie met-il en lumière? Le Messie, le messianisme, nous conduit à méditer sur le commencement, et non sur une quelconque fin des temps, comme nous pourrions le penser. Voilà ce à quoi j'ai essayé de vous inviter ce soir. Et c'est quand on nomme l'origine et celui qui y préside que la réflexion commence. Aujourd'hui, où nous sommes sans cesse tournés vers l'après, où nous avons du mal à vivre le temps présent, et même parfois du mal à nous construire, notre cheminement de ce soir nous invite à changer de regard, à nous tourner vers l'arrière. Savoir qui je suis, c'est aussi savoir d'où je viens, dit cette maxime bien connue. Et qu'est-ce d'ailleurs que ce regain d'intérêt pour la généalogie dans notre société, sinon les prémices de ce retour en arrière? Et pour nous, ici présents, juifs et chrétiens, c'est justement lorsque nous regardons en arrière pour chercher nos origines que nous nous trouvons alors réunis, réunis autour de notre même Dieu. Et c'est cette démarche qui fait notre joie. Merci.
Il y a le micro qui passera, je le ferai passer, et puis la personne qui désire poser la question vient, ou en tout cas celles qui sont loin, Mais sans cela, il y a bien des questions quand même, où il faut réfléchir. Oui.
J'aurais à la fois une remarque à formuler, une question à poser. Alors, la remarque, vous avez beaucoup insisté effectivement sur les liens entre le Messie et les commencements. Vous avez donné toutes les occurrences effectivement du mot Messie. Alors, peut-être du point de vue de la tradition juive, peut-être faudra-t-il rajouter une 40e occurrence qui reprendra ce que vous avez dit sur les commencements, puisque selon la tradition, à la fois pour le Talmud et puis le Zohar, déjà, le nom de l'homme Adam est déjà évocateur du Messie, puisque Adam est lu Abraham, David, Mashiach. Donc effectivement, le Messie est l'aboutissement d'une histoire, mais doit sans cesse nous rappeler les commencements, notamment avec la figure d'Abraham. Alors, ma question était la suivante par rapport au mot commencement qui évoquait la Genèse. Quel est le mot en grec dans les évangiles? Arché. D'accord. Merci.
Je rebondirais peut-être très naïvement sur votre exposé, Charlotte. C'est effectivement cette quantité de figures messianiques. Et on a peut-être, quand je dis on, c'est moi, c'est peut-être d'autres, l'idée ou d'une personne, ou en tout cas, peut-être de temps différents, qui est aussi une autre façon d'avoir une image du Messie, c'est-à-dire l'homme nouveau, le cœur de l'homme qui se transforme, et pour ça, oui, il doit savoir d'où il vient. Mais effectivement, repartir aussi loin, oui, même dès Abraham, dès Adam, comme vous l'avez fait, et avec Anne, Ève, c'est ça qui était nouveau pour moi, en tout cas, d'entendre cela. Et puis d'autres personnages, comme Saül, comme David. Mais voyez-vous, moi, dans ma tradition, je ne les avais pas vus comme des messies. Le seul dont j'ai pu entendre la messianité étant donnée, c'était Jésus, qui n'a pas été reconnu, oui, dans la tradition juive. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors, je dis bien, c'est très naïf, parce que je ne connais pas tout, loin de là, et même justement de cette capacité, dans le judaïsme aussi, d'aller sur des figures, effectivement, comme vous l'avez évoqué. Voilà.
Merci Charlotte pour ce travail. Ça va tous nous nourrir. On va pouvoir à nouveau se pencher sur la Bible, avoir un autre regard. Alors, évidemment, c'est vraiment une découverte parce que jusqu'à présent, on voyait toujours cette notion de messianité comme fin des temps, fin des choses. La vision eschatologique qui trop souvent se répète dans beaucoup d'œuvres aux États-Unis, avec tous ces films apocalyptiques, on se dit encore un nouveau film d'Hollywood qui annonce la fin des temps. Et là, c'est très récurrent dans la culture anglo-saxonne, cette peur de la fin des temps. Et alors là, il y a quelque chose vraiment de très nouveau, un autre regard, une autre conception du temps messianique. C'est-à-dire que là, si j'ai compris, et puis petit à petit, ça va, je vais donner forme à ma question, on a l'impression que l'annonce du temps messianique serait l'annonce d'un temps nouveau. En fait, c'est tout le contraire. C'est pas du tout, ce serait pas une dynamique eschatologique comment la planète va partir, parce qu'on a des angoisses eschatologiques actuellement. Je veux pas revenir sur les sujets du Grenelle de l'environnement, on a des angoisses terribles sur le réchauffement de la planète. Alors, et là c'est plutôt porteur d'espoir, il y a énormément. C'est quand on développe une conscience messianique, c'est l'annonce d'un temps nouveau. Et c'est très précis, par exemple, pour David. On voit bien le passage de Saül à David. Si c'est David qui est choisi et désigné, c'est qu'il sera à même de mieux préparer ce temps nouveau qui est l'avènement de Jérusalem, puisque dans ce temps nouveau, c'est la récupération de l'arche, c'est l'installation de l'arche à Jérusalem. Bon, on suppose qu'après, par son fils, il y aura par son fils Salomon la construction du temple. Et finalement, David, et on insiste bien sur le temps messianique de David, c'est l'annonce d'un temps nouveau que constituera la cité de la paix Jérusalem, la construction par son fils du temple de Salomon. Donc vraiment, et c'est très intéressant, j'avais pas tellement pensé à cet aspect de la naissance. C'est-à-dire que la messianité s'inscrit plus dans une naissance d'un temps nouveau, c'est le contraire de la fin. Voilà.
Vous voulez peut-être approfondir.
Peut-être répondre peut-être d'abord à Jean-Albert et puis ensuite à ta remarque, Eliane. C'est vrai que donc c'était temps messianique, c'était jusque-là dans nos têtes des temps nouveaux, tournés vers l'après, mais je crois que ça reste aussi ici, dans tout ce que je viens de vous dire, un temps nouveau. C'est un temps nouveau où on va regarder en arrière. Un changement de regard, un changement de direction. C'est une naissance, c'est quelque chose de nouveau qui va surgir, qui va naître, et ce temps nouveau, ça sera un changement de regard, un changement de direction, c'est ça. Au lieu d'être angoissé par l'après, on peut dire ça, et c'est vrai qu'on est vraiment dans une société actuellement où on est comme ça. Enfin, moi la première, je me reconnais tout à fait là-dedans quand on a des vies très occupées avec les enfants, on est tout le temps dans demain, après, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on ne profite pas de ce qui... Et là, on nous dit, regardez en arrière. Changez votre regard. Et c'est aussi ça qui pourra nous porter après. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de nouveau et qui peut nous aider aussi dans notre vision quotidienne. Hein. Par rapport à ce que tu disais, Eliane, ces différentes figures de Messie dans l'Ancien Testament que tu n'avais pas perçues, je crois qu'en fait, dans l'Ancien Testament, les Messies, c'était les rois, les ouins, hein, les machias, toute personne qui était ouin. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'habitude, c'est peut-être l'usage du terme que l'on en fait qui a été galvaudé aussi, hein, quelque part. Effectivement, quand on dit Messie, actuellement, on pense au Christ, hein, de n'importe quelle religion que l'on soit. Alors que ce terme, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, machia de l'hébreu, a été traduit par Christos en grec. Hein, mais c'est le même mot. Le même mot, c'est loin. Et Jésus-Christ, c'est bien loin également. Hein. Et c'est vrai que là aussi, ça remet peut-être les choses un petit peu en place, et se dire qu'il y a aussi beaucoup de figures de Messie dans l'Ancien Testament.
Merci, oui, de cette réponse qui est claire. En parlant effectivement du retour en arrière, on a ça, et on verra peut-être en psychanalyse avec le docteur Vasseur, mais il est sûr que toute analyse permet d'aller en arrière, dans son passé, la psychogénéalogie, etc. Et qu'est-ce que l'on retrouve, en fait, dans la Torah, dans les 10 paroles? C'est le respect du père et de la mère. Et c'est souvent très mal interprété, parce que comment dire respect? Le mot respect traduit respect. En hébreu, en fait, c'est de donner du poids. Effectivement, si dans le passé, nous donnons du poids à nos anciens, à nos parents, à nos ancêtres, c'est certainement pour mieux aller de l'avant. Et là, j'entends encore autrement cette parole, ce commandement de respecter. Tu respecteras ton père et ta mère et tu prolongeras ainsi tes jours. Donc c'est très fort, mais ça revient à dire ce qui est dit là aussi, d'aller vers le passé, de se souvenir des anciens pour que nous puissions construire déjà un présent et pour avoir confiance en l'avenir. Alors est-ce que là aussi l'idée du Messie n'est pas pour nous faire avancer? Oui, en gardant, en lisant la Torah, en lisant les évangiles régulièrement, comme je disais, vous le faites tous, nous le faisons tous les samedis, tous les dimanches, sentir des choses en nous pour pouvoir justement les amener. Alors est-ce que en disant que chaque homme changera son cœur, homme-femme, hein, changera son cœur de la connaissance. Est-ce que tous un jour nous serons messie?
Moi, j'aurais trois choses. La première, pour conforter ce que Charlotte nous a dit, deux citations du grand rabbin Alexandre Safran, deux citations qui permettent de faire le lien entre le judaïsme et le christianisme. Le grand Safran et le grand rabbin Safran, pardon, disait « L'ère messianique rappellera l'âge premier d'humanité. » Donc, ça conforte en fait ce que nous disait Charlotte au point de vue de la dimension du commencement, et puis dimension du présent aussi, puisque là encore le grand rabbin Safran dit « Le temps messianique se prépare dès maintenant », donc on a toute la dimension du présent, et il cite Jérémie qui dépeint le temps messianique comme une réalité déjà agissante. Ça, c'était pour les deux observations. Et puis, j'ai deux questions qui sont un peu connexes, je dirais. Deux questions qui sont adressées. On a la chance d'avoir, presque chaque fois, en fait, des représentants du judaïsme, des représentants du protestantisme, avec Charlotte ce soir, des représentants du catholicisme, avec les pères, Barthélemy et Don Pasquale, et puis aussi une représentante de l'Église orthodoxe avec Solange Vincent. Donc mes deux questions s'adressent à eux et à elle. Et je dis bien qu'elles sont un peu connexes. La première, je voudrais savoir si, je vous les retrouve, je voudrais savoir si des théologiens ont présenté des travaux sur la question suivante. Est-ce que Jésus a eu conscience, et si oui, à quel moment de sa vie, et s'il a eu conscience d'être le Messie. Et puis, la deuxième question, à partir de quel moment le mot Christ a-t-il été accolé au mot de Jésus? Parce que maintenant c'est devenu banal, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais je pense que ça ne s'est pas fait d'un coup. Donc, est-ce que c'est un concile? Et si oui, lequel, qui en a décidé? Merci.
Qui veut répondre? Père Barthélemy peut-être, sur cette question? Oui.
La seule question, c'est surtout quand Jésus a conscience qu'il est le Messie. Voilà, je ne peux pas répondre. Hein. Parce que c'est difficile, on ne peut pas. Hein, parce que le Christ échappe à toute psychologie. Hein, tel que nous la pensons nous. Hein. Bon, on voit quand même dans les évangiles, quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est quand même celui qui est là, envoyé par Dieu, et donc il réalise le projet et le dessein de Dieu. Hein, c'est ça. Alors, ce qui peut être intéressant à approfondir, c'est la conception du messianisme. Est-ce que le messianisme, c'est, on a une histoire humaine, et puis le messianisme vient après cette histoire humaine, voilà. Ou est-ce que ce messianisme est en train de s'enfanter jour par jour au cœur de cette histoire humaine? Alors il me semble que là, même aussi dans des courants juifs, c'est que le messianisme n'est pas un autre monde, hein, c'est ce monde qui devient autre. C'est ça. Et que, je ne sais pas, nous, dans nos traditions chrétiennes, je pense, hein, quand on parle de fin du monde, c'est très ambigu. Il n'y a pas la fin du monde, il y a la fin d'un monde. C'est ça. Hein. C'est le fond du monde, du péché, enfin, tout ce qui écrase l'homme. Hein. Mais en même temps aussi, ce messianisme se vit dans un enfantement continuel. C'est déjà d'ailleurs l'image de Paul, hein, l'idée de la création tout entière, souffre les douleurs de l'enfantement, dans l'attente de la manifestation du Fils de Dieu. Alors, je conçois davantage le messianisme comme lieu au cœur de l'histoire, et c'est la tradition juive et chrétienne qui se rejoignent bien, voilà, hein. Non pas un Dieu qui partage l'histoire des hommes, et c'est aussi dans la tradition juive, hein, mais qui est en même temps le Dieu de la promesse, dont on parlera la prochaine fois, hein, tout ça, hein. C'est-à-dire qu'au cœur de ce chemin que Dieu fait avec l'homme et avec son histoire, c'est la foi dans la promesse. Et ça, ça commence avec Abraham. Hein, Abraham, c'est la promesse. Hein. Et lui, il va marcher, s'appuyant sur deux choses, marche en ma présence et la promesse. Hein. Donc c'est ce qui conduit, et ce qui est à travers Abraham, ce qui conduit tous les croyants, quoi, jusqu'à la fin.
Merci Père Barthélémy. Peut-être
effectivement, moi je me reconnais tout à fait dans ce que vous disiez et dans une des citations qu'a donné Norbert, c'est une réalité déjà agissante. Et dans le protestantisme, on aime beaucoup parler du déjà là, mais pas encore. Alors, c'est très barbare, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On dit cela en général à propos du royaume de Dieu. Hein, c'est le royaume de Dieu qui est déjà là, mais qui n'est pas encore là. Voilà. Et je crois qu'on peut vraiment faire une analogie là avec ce temps messianique qui travaille, qui avance petit à petit. Et alors, il y a un théologien protestant qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui a écrit un livre qui s'appelle La théologie de l'espérance. Je crois que ce livre était dans la bibliographie. Alors, c'est le théologien qui développe un peu ce concept de messianisme. J'aurais pu effectivement vous parler de ce livre et de cette vision-là. Je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait ça. Lui parle d'espérance, hein, d'une promesse. Vous disiez, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui se vit au jour le jour, qui nous est donné, mais qui n'est pas encore là, et que l'on a avancé avec cette fine présence, on va dire, ces signes, voilà. Donc, je voulais juste faire ces deux rapprochements.
Merci.
Oui, merci à Charlotte de nous avoir rappelé que cette figure du Messie, du Christ, nous projette pas seulement dans le présent et dans l'avenir, mais aussi un rappel de ce qui a été annoncé, de ce qui a été écrit. Alors, ça nous parle beaucoup. Ça peut des fois gêner nos amis juifs, et donc il faut nous expliciter un petit peu là-dessus. C'est vrai que pour la lecture de certains passages du Premier Testament, par exemple quand on lit les Isaïe, nous voyons la figure du Christ dans le serviteur souffrant, et nos amis juifs voient la destinée d'Israël, et donc des amis juifs me disaient « vous nous prenez tout ». Et donc ça serait dommage que nos amis juifs pensent que cette manière de se tourner vers les origines, c'est une manière encore de leur prendre un petit peu plus du Premier Testament. Je pense qu'il faut plutôt le comprendre comme ça a été dit dans la prière du Sidour du Bet-Dil à Genève, et comme on le pense souvent, cette recherche de nos communes origines nous amène aussi à une commune espérance. Enfin, moi, je le vis comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Charlotte.
Bah, c'est un petit peu les dernières phrases que j'ai eues. Hein. C'est en se tournant ensemble vers nos origines qu'on trouve là quelque chose, un Dieu avec lequel on peut être aussi unis. Et donc effectivement, c'est pas du tout une intention d'atteindre quoi que ce soit ou de voler quoi que ce soit, mais bien d'essayer plutôt de se réunir aux endroits où nous sommes ensemble, plutôt que de pointer les différences. Je crois que c'est ça l'intérêt d'un tel groupe, et, il me semble.
Il est certain que lorsqu'il y a la connaissance comme ce que nous vivons ensemble, et moi je regrette beaucoup qu'il n'y ait même pas plus de personnes juives ici, dans nos réunions, et elles, ce n'est pas qu'elles craignent quoi que ce soit, elles n'ont pas assez de connaissances, et elles ont déjà dit Christelle, trop besoin de se former dans ce qu'elles sont elles-mêmes, dans leur tradition, mais il est sûr qu'il n'y a plus de crainte. Moi, je sais que j'ai dépassé cela depuis longtemps, même si effectivement, ça peut donner l'impression comme d'accaparer quelque chose. Mais finalement, cet héritage, il est là. À partir de l'instant où dans le monde juif, on peut comprendre que Jésus est un juif, on a tout compris. Et de voir la personnalité de Jésus, comme nos amis chrétiens en parlent, mais avec un regard juif, c'est très très intéressant. Parce que vraiment, il a agi comme un juif qu'il était. Il ne savait rien d'autre. Et sa connaissance propre, cette dimension de prophète. Mais je pense que non, on n'a pas à avoir une crainte à partir de l'instant où on laisse vivre chacun. Ce qui a fait craindre, c'est le fait de l'anéantissement au niveau du judaïsme. Et la peur, effectivement, dans les années passées, dans les décennies même, enfin, lointaines maintenant, Dieu merci, c'est cette peur-là qui a fait croire, effectivement, et c'était vrai aussi, que le peuple juif n'existe plus. Pour eux, c'était pour le peuple juif, ça a été l'idée, effectivement, que Jésus et le monde chrétien prennent cette place. Je crois qu'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on n'en est plus là. Et qu'au contraire, c'est vraiment intéressant que tous ensemble, nous étudions toutes ces formes d'avancer vers quelque chose. Moi, je pense que si Jésus est venu, c'est qu'il avait vraiment à aider, à ouvrir au monde, pour certains juifs, oui, qui l'ont suivi, et surtout le monde païen. Et il fallait déjà 2000 ans pour en arriver où nous en sommes. On n'en est pas très loin quand même. On a encore beaucoup de travail au sens messianique, justement, de l'ouverture.
Avec l'addition de tous ces apports, ces commentaires, j'ai l'impression que l'acte messianique ou la pensée messianique, c'est de retourner à la source de la vie, de saisir, parce que j'ai entendu ces termes d'enfantement, de continuel, de naissance permanente de vie. J'ai l'impression que c'est vraiment le processus de la vie, l'acte messianique, la pensée messianique, c'est de toucher d'être au cœur de la vie, que ce soit par la généalogie, savoir d'où je viens, qui je suis, redonne de la substance à sa vie, reprojette sa vie, et j'ai de plus en plus l'impression que cette messianité, c'est presque la clé de la lumière de la vie. Qu'en pensez-vous?
Oui, effectivement, je crois que c'est tout à fait ça. Et tu as cité le terme de lumière que j'ai également cité dans l'exposé. Où il y a vraiment cette notion d'éclairage, de flash un petit peu sur une vie, de quelque chose qui devient tout d'un coup devient clair. Hein. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est cette recherche aussi du messianisme, d'une ère messianique, est-ce que c'est pas aussi avoir les yeux qui s'ouvrent, hein, ne plus avoir les yeux bloqués, à dire ben oui, voilà ce que c'est, c'est peut-être aussi en retournant dans nos origines. Une nouvelle naissance, hein, si on peut employer ce mot. Voilà. Donc ça, je crois que c'est tout à fait dans ce bout-là.
Je souhaiterais que vous nous refassiez l'éclairage que j'ai trouvé assez extraordinaire de la femme, des deux femmes, de ce temps de risque de mort, de la statue et du tissu. Et vous remettez ça au niveau de l'histoire de Jésus et du tombeau.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer, même si moi, c'est plus psychologiquement que j'ai compris les choses, mais spirituellement, si vous avez fait ce lien entre les débuts dans l'histoire, dans le premier testament, et ensuite dans les évangiles, quel lien faites-vous justement ?
Alors, je cherchais une accroche pour cet exposé et cette idée m'est venue hier soir de mettre en lien comme ça deux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament où il est question de Messie, que David est un Messie, enfin un noir, où il est question d'une femme qui est très active dans la recherche d'un corps. Il est question d'un corps qui disparaît, qui n'est plus là. Et il est question de tissus, de bandes de tissus, de moustiquaires qu'on va recouvrir, d'un drap qu'on va... Voilà. Alors, c'est pas très net dans ma tête non plus, je dois l'avouer. Mais en tous les cas, alors bon, on nous reproche parfois, nous, chrétiens, de tirer un peu les... Et là, je le reconnais tout à fait, le Premier Testament, de tordre, vous savez, un petit peu, jusqu'à trouver des liens avec le Nouveau Testament. C'est peut-être le cas ici, mais je trouve qu'il y a des choses, c'est plus un jeu, hein, quelque part, hein, de se dire, bah tiens, là, il y a ça, voilà, hein, et voilà, on le retrouve. Hein, donc, alors, au début, je n'ai pas insisté là-dessus, mais Saül, donc, qui veut se débarrasser de David, juste avant cet épisode où Michal, sa femme, va protéger son mari, Saül cherche à clouer David au mur avec sa lance. Donc, on a encore des histoires de clous. Hein, voilà. Bon, ça, j'ai pas insisté, mais tu as encore, je vais pas dire un clin d'œil, je sais pas ce que c'est, je veux pas tordre le texte, mais voilà, des choses comme ça qui nous sont données. Alors, la présence d'une femme, hein, on a vu que Anne aussi là avait joué un rôle important. Je n'ai pas plus de clés, si vous pouvez m'en donner, j'ai juste jeté comme ça des similitudes, mais il faudrait sûrement peut-être plus prendre le temps de fouiller dans ces textes et je suis sûre qu'on trouverait des tas de choses. Hein. Michal qui met à la place de son mari, qui met une statue en bois dans le lit. Hein, le Jésus qui porte les poutres. Bon. Jusqu'où on peut aller, je sais pas, tout en respectant les textes aussi. Hein. Donc voilà.
C'est une vraie étude du style pile-poule à la juive, c'est-à-dire de chercher avec les mots hébreux aussi peut-être. Mais la femme donne vie, en tout cas là elle empêche la mort. Dans les deux cas, il y a, alors dans un cas il n'y aura pas mort, mais moi ma question est aussi là, en tant que personne juive, je l'ai déjà posée une fois au père Barthélemy lorsque nous étions ensemble dans... Nous avions œuvré pour nos enseignements. Est-ce qu'il l'a fallu ? Pourquoi a-t-il fallu ? Ou est-ce que c'était nécessaire que Jésus meure ? Pourquoi ? Et ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre, ou si quelqu'un peut répondre, ou on ne peut pas répondre, parce que c'est le mystère. Père Barthélemy.
Il y a d'autres fois chrétiens, hein. Une autre foi chrétienne, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire que Jésus, pour nous, est vrai Dieu et vrai homme. Hein? Donc il y a la vérité humaine, hein? C'est ça. Et que la mort de Jésus est la conséquence de son humanité. S'il n'y avait pas eu la mort, ben, il ne serait pas homme. Hein? Parce que là encore là, la mort, il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Hein? La mort fait partie de la nature humaine. Or, très souvent encore, dans notre esprit, c'est Dieu qui décide de notre mort. Alors, souvent encore, chez les chrétiens, c'est Dieu qui décide. Hein? Alors que la mort vient naturellement. Elle fait partie de nos conditions humaines. Et que pour nous chrétiens, dans notre mort, Dieu y est engagé aussi. Il est engagé tout au cours de l'histoire de l'homme. Il est engagé avec l'homme dans son histoire, il est engagé avec l'homme dans sa condition humaine. Vous voyez, nous disons cette prochaine fois, le Verbe se fait chair. La parole de vie, ça fait chair à la chair dans la Bible, ça veut dire l'homme dans sa condition fragile, humaine, avec la mort. Hein. C'est ça. Et donc il a demeuré réellement parmi nous, comme le mortel. Et puis en même temps, dans cette mort, il y a la vie. Mais alors là, il faudrait qu'on explique ce qu'on entend par mort. C'est ça. Hein. Alors là, on ne sait pas très bien, il faudrait peut-être un jour qu'on explique, hein, parce que c'est la mort de l'amour. La mort du Christ n'est pas d'abord la mort biologique, c'est la mort du don de sa vie. Dont la mort biologique est le signe du don de sa vie. Hein, c'est-à-dire que dans tout amour, il y a une mort. Dans tout amour. C'est-à-dire qu'on meurt à soi-même quand on aime l'autre, mais en même temps, dans cette mort, surgit la vie. Alors là, je sais pas, on ouvre un peu toute une recherche, mais il me semble que c'est le fondement des choses, hein, et que la mort et la résurrection du Christ, c'est la mort de l'amour, mais dans cette mort de l'amour, il y a le surgissement de la vie. C'est le grain de blé qui meurt et qui, en mourant, fait surgir la vie. Enfin, je sais pas, mais bon, juste.
Merci. Je voulais vous remercier pour la question qui était posée. Et quelqu'un a posé tout à l'heure la question, mais quand est-ce que Jésus a eu conscience d'être le Messie? Bon, je ne vais pas vous répondre. Il m'est revenu en mémoire un livre que j'ai chez moi, et qui va me permettre de retravailler. C'est le travail d'un théologien, un jésuite, Jacques Guillet, qui a fait tout un travail sur Jésus-Christ devant sa vie et sa mort. Et qui donc s'est interrogé à partir des Écritures sur la conscience de Jésus. Et la chose qui me revient, et je ne pourrais pas vous en dire plus, mais ce qui m'avait frappé, et c'est là où il faut reprendre tout le travail qu'il a mené, c'est de savoir, mais comment Pierre a-t-il pu confesser le Christ, et de telle sorte qu'il le découvre par lui-même et qu'il ne lui souffle pas la parole, qu'il ne lui donne pas la réponse. Et tout le travail de Jacques Guillet, ça va être ça, quoi, tout le cheminement. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé, je n'avais pas tout compris, mais le fruit de cette rencontre, ce soir, ça va me permettre de résumer cet ouvrage, oui.
Merci de votre témoignage. Vous voulez répondre, Charlie?
En fait, Charlotte avait déjà donné un petit peu la réponse, mais je me sers d'un livre de Gilbert Messalier qui s'appelle « L'homme qui devint Dieu », qui est un livre tout à fait iconoclaste et extrêmement critique. Mais au milieu de toutes ces critiques, il y a quand même des choses, parce qu'il a extrêmement lu, et en particulier, il a lu ce livre que vous citez. Et je pense que là, il s'est inspiré pour montrer cette montée de la conscience de son messianisme chez Jésus. Mais on a l'impression que ce sont pratiquement ses disciples qui, en le reconnaissant comme Messie, lui ont fait prendre conscience. Et ça me fait penser à quelque chose que nous a dit le pasteur Charles Gérard tout à l'heure. C'est qu'en fait, Jésus ne dit pas explicitement qu'il est le Messie, c'est ses disciples qui sont amenés à le découvrir. En fait, Jésus est Messie quand nous découvrons qu'il est le Messie.
Alors en fait, il va quand même le dire quand il va revenir avec les pèlerins d'Emmaüs, hein, après sa résurrection. C'est là où il va dire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit comme cela? Voilà. Bon. Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans sa vie qu'il a dit ça? Il est déjà mort, donc a priori non. Voilà, mais cette fois-là, le mot va être dit dans sa bouche, en tous les cas. Mais comment on le situe par rapport à tout le reste, ça, c'est effectivement une question.
Oui, moi, je suis comme le monsieur là, tout à l'heure, très heureux que tu aies posé là, de ton intervention. Puis, en fait, il y avait deux aspects dans ton intervention. Et je suis très heureux de la réponse qui a été faite à la deuxième partie de ton intervention, qui a été faite par le père d'Arcelini. Il y avait deux aspects. Premier aspect, est-ce qu'il a fallu que certains disent, certains milieux chrétiens, et personnellement c'est pas du tout mon, je respecte mais c'est pas du tout ma démarche, parlent constamment d'expiation, de nécessité de, et ça m'insupporte. Je respecte mais c'est pas ma démarche. Donc est-ce qu'il a fallu que, est-ce qu'il y avait une autre solution, je n'en sais rien, et franchement cette partie-là elle ne m'intéresse pas. Par contre l'autre partie est essentielle, la réponse qu'a donnée le père Barthélemy est tout à fait lumineuse, à savoir que pour moi, et contrairement à ce à quoi on assiste de plus en plus, quand il y a des sondages sur la résurrection, il y a de moins en moins, alors des sondages, on sait très bien, on l'a vu la semaine dernière, il y a deux sondages sur la même problématique avec des résultats complètement opposés. Donc on sait très bien la manière dont sont posées les questions, on peut arriver à des résultats complètement différents. Mais enfin, quand des questions sont posées sur la résurrection, on voit qu'il y a de moins en moins de personnes, des personnes qui fréquentent les églises, y compris dans le protestantisme, qui croient en la résurrection. C'est quand même un sacré problème. Alors que pour moi, c'est clair que, comme l'a dit Père Barthélemy, c'est le cœur même, ou la clé, comme disait Jean-Albert tout à l'heure, c'est la clé de la vie, de la vraie vie, la résurrection. Si je ne crois plus en la résurrection, pour moi tout est perdu, tout est vain, comme disait Paul. Et quand on a le malheur de perdre quelqu'un qui disparaît, notamment des jeunes, des enfants, ou des personnes très jeunes, de croire, d'avoir foi en la résurrection, pour moi c'est l'espérance la plus lumineuse, la plus merveilleuse. Donc c'était pour moi très important ta deuxième partie d'intervention.
Juste peut-être pour répondre à Norbert, il faut bien se dire que si nous avons le Nouveau Testament, c'est qu'il y a eu la résurrection. Les évangiles ont été écrits à partir de là. Et à l'inverse de ce que l'on croit souvent, où nous on fait démarrer notre année à Noël, notre année chrétienne démarre à Pâques. Hein ? C'est ça le début. C'est ça le début de la vie d'un chrétien, c'est Pâques, c'est pas Noël. C'est pas Noël parce que Jésus était homme, hein, né dans une mangeoire, voilà. Et des miracles, il n'était pas le seul à en faire. Loin de là, loin de là. Il n'était pas le seul à prophétiser, à partir d'en est. Et aujourd'hui, on en a encore. Hein. Le cœur de notre foi chrétienne, c'est Pâques, c'est la résurrection. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu la résurrection, nous n'aurions pas eu le Nouveau Testament. Donc ça, effectivement, c'est capital.
C'est très intéressant de faire une exégèse de l'enfance de Jésus. Et que, comme vous le dites, le récit de Noël de la naissance du Christ, c'est Pâques. Exactement le récit de Noël reprend Pâques. Ou si vous avez un parallèle tout à fait entre le récit de la résurrection du Christ, hein, et puis ensuite le récit de Pâques. Et vous avez exactement les mêmes choses. Des bergers qui courent à la crèche comme des apôtres au tombeau. Vous avez ensuite qui repartent annoncer la bonne nouvelle. L'enfant emmailloté de l'ange couché dans une crèche, c'est le Christ au tombeau. Hein. Là, je ne veux pas développer ça, hein, mais je crois que c'est quand même important, c'est très lié, hein, on ne peut pas séparer. Je voudrais peut-être terminer, excusez-moi, mais que je trouve important, c'est que cette recherche que l'on fait sur le messianisme est au cœur des liens entre les chrétiens et les juifs. Hein, parce que nous sommes le peuple chrétien et juif de l'espérance. Nous sommes le peuple de la promesse et le peuple qui croit au Dieu dans l'histoire. Alors il me semble que pour nous chrétiens, nous avons besoin de nous convertir beaucoup là-dessus. Hein, parce que très souvent, on regarde les Juifs comme étant notre racine, notre passé, etc. Mais on ne voit peut-être pas le dynamisme et le projet que Dieu continue de faire à travers l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que ce peuple juif porte en lui toujours le projet de Dieu. Et donc il est tourné vers l'avenir de Dieu. Et nous nous sommes tournés aussi vers cet avenir. Nous le lisons peut-être d'une manière un peu différente, hein, mais nous sommes emportés dans le même avenir. Alors ça peut être que le messianisme a changé notre regard que nous portons sur les juifs. Parce que les chrétiens disent, le messie est venu, mais ils n'ont pas cru. Hein, voilà. Alors qu'il faut bien voir qu'il est toujours le peuple de l'espérance. Et qu'on a besoin de partager ensemble cette communion dans l'espérance.
Oui, merci Père Barthélemy pour ce témoignage, parce que ça c'est une réalité. C'est pour ça que j'étais intéressée par le fait que vous reveniez en arrière, comme vous dites en arrière, mais en fait c'est pas en arrière du tout. C'est très présent dans la connaissance dont nous avons tous besoin. Alors nous avons besoin aussi de la suite. C'est pour ça que connaître les évangiles et la vie de Jésus, moi je pense que pour les juifs, c'est extrêmement intéressant pour comprendre et se comprendre. Je voulais juste parler aussi de Pâques dans la tradition juive. Même si l'on fait le nouvel an vers le mois de septembre-octobre, le mois de Tichri, où quelques jours, 10 jours après, il y a le grand pardon, mais en réalité, le nouvel an, dans les temps même anciens, c'était Pâques. C'est-à-dire la nouvelle année commence, pourrait commencer à Pâques. Pourquoi ? C'est pas l'histoire de Jésus, non, du tout, mais c'est la sortie d'Égypte. Elle est répétée sans cesse, tous les Shabbats, tout le temps, on nous parle, on nous dit, n'oublie jamais la sortie d'Égypte, le fait de la libération, qui est une naissance d'un nouveau peuple, puisque ça va se faire dans les années, dans les 40 ans, dans la suite du temps. Et ça aussi, c'est une forme de, alors je ne vais pas employer le mot résurrection, mais de passer de l'esclavage à la liberté, de recevoir les tables de la loi, qui est là le verbe de Dieu, la parole de Dieu, et vous de dire, et l'alliance, la deuxième alliance, la première étant avec Abraham, dans la circoncision, mais la deuxième alliance. Et je pense qu'effectivement, il y a des liens que l'on retrouve comme cela, de répétition, mais avec d'autres images et sous d'autres formes. Donc pour le monde chrétien, avec effectivement la personnalité de Jésus, oui, comme Messie, c'est-à-dire annonçant quelque chose de nouveau, pour, là j'entends bien aussi, je le comprends encore mieux qu'avant, par cette soirée. Oui, merci.
Sur l'aspect de la messianité du peuple juif, on pense à cette image forte de David, parce que le David Messie, c'est aussi le début de cette messianité du peuple d'Israël. C'est la naissance et qui se poursuit et qui continue. Et là, on a un parallèle entre cette naissance de la messianité confirmée par David et pour les chrétiens, Jésus. Cette messianité du peuple juif, évidemment, elle est pérennisée et elle ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. Pour nous, dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes, ce travail de transversalité des textes n'est pas un travail de récupération, c'est un travail d'éclairage mutuel. C'est pour ça que c'est très intéressant. Bon, c'est peut-être un terme un peu technique, hein, littéraire, d'utiliser la transversalité, mais c'est vrai que c'est très intéressant la transversalité. Elle peut être utilisée, son utilisation peut être délicate et dangereuse, mais elle peut être aussi une source de richesse pour les deux messianités, l'une annoncée vraiment et reconnue, désignée par le roi David, et pour nous chrétiens par le Christ. Mais l'une n'efface pas l'autre. Et voilà. Et je pense que ces deux messianités vont se poursuivre. Et pour nous chrétiens, ce qui peut être aussi très intéressant, c'est de mieux saisir, de comprendre la messianité du peuple d'Israël. Pour nous, là aussi, on a, c'est un enjeu important pour nous, parce que mieux on comprendra le messianisme du peuple juif, et ce sera un meilleur éclairage pour notre foi et notre espérance, notre alliance aussi avec Dieu, de mieux comprendre et de saisir la messianité du peuple juif.
Là-dessus, nous en saurons beaucoup plus avec le rabbin Garay qui viendra, et puis bien sûr avec David Bannon. Et là, il y aura effectivement vraiment des réflexions à se faire avec ce que nous avons déjà entendu et ce que nous allons continuer à entendre par le monde chrétien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que l'on peut vous remercier beaucoup vraiment de cette intervention extrêmement passionnante, hein. Pas très intéressante. Merci, Charlotte. J'ai 2-3 petites annonces, comme d'habitude. Restez bien vigilants et restez encore, parce qu'on a encore quelques minutes, ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous parler argent. Non, pas comme d'habitude. Mais il y a peu de cotisations pour Paris. Donc je voulais simplement vous rappeler qu'il y a, si vous le souhaitez, si vous voulez, aider Paris. Donc il y a que 5 personnes qui ont donné pour les cotisations. Donc, je...